La foi chrétienne pour les nuls. Avec Marcos, journaliste sans peur et sans talent, et Samos, savant surdiplômé et surestimé.
Bonjour professeur Samos, nous sommes ravis de vous retrouver pour cette nouvelle émission. Le sujet du jour est celui du sacrement de l'Eucharistie. Je ne vois pas véritablement à quelles difficultés il vous faut faire face. L'Eucharistie, tous les chrétiens le savent, est la communion au corps du Christ. Tous nos auditeurs doivent bien savoir cela.
Justement, monsieur Marcos, c'est bien ce qui m'inquiète. Ce que l'on sait est souvent ce qui nous empêche de véritablement connaître.
Mais connaître quoi ?
Eh bien l'immense mystère contenu dans l'Eucharistie, tel que célébré par les chrétiens catholiques et orthodoxes. Mais dites-moi, monsieur Marcos, selon vous, combien de chrétiens croient que Jésus est le Messie attendu par Israël ?
Vous voulez dire le Christ ?
Vous voyez ce que je veux dire ? Même vous, vous n'êtes pas certain de comprendre le sens du mot Messie. Mais passons, et dites-moi, parmi ceux-là, combien croient que Jésus-Christ, non seulement est le Messie attendu par le peuple d'Israël, mais qu'en plus, il est ressuscité des morts?
Je dirais un bon nombre tout de même, la résurrection c'est connu, non?
Connu peut-être, mais combien y croient fermement? Et maintenant dites-moi, combien parmi ceux-là croient que Jésus est fils de Dieu et Dieu lui-même?
Ma foi, tous les chrétiens pensent que Jésus est Dieu.
Et ça ne vous pose pas de problème qu'un homme puisse être Dieu? Cela n'a pas des relents de mythologie grecque surannée, ça? Vous savez que nous sommes la risée de tous les juifs et musulmans de la planète. Et ça fait un sacré paquet de monde sur la Terre, croyez-moi.
Oui, je veux bien le croire, mais quel est le problème? Que Jésus soit Dieu, ça fait partie de notre foi, c'est tout.
Certainement, Marcos, vous avez raison de l'affirmer. Mais comprenez bien que passer de cette affirmation-là à l'affirmation que lorsque le prêtre consacre un bout de pain sans levain, Dieu lui-même vient habiter dans le bout de pain en question, admettez que là, nous allons perdre le peu de crédibilité qui nous restait encore. La tâche en serait bien plus aisée si, à l'instar de nos amis protestants, nous ne considérions l'Eucharistie que comme un symbole, une sorte de célébration spéciale pour faire mémoire du sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. Un symbole, une image, un aide-mémoire, c'est pas trop choquant ça, ça reste acceptable pour nos esprits cartésiens. Mais que le bout de pain en question devienne réellement, comprenez physiquement le corps du Christ ressuscité, comment voulez-vous que je vous l'explique ? Ça me paraît inconcevable, bien trop irrationnel. Un mystère, après tout, c'est un mystère. Pourquoi chercher à l'expliquer? Nous sommes incapables. Mais enfin, monsieur Marcos, mais qu'est-ce que vous faites? Vous bouffez pendant que je vous livre mes pensées les plus angoissées?
Ouais, je mange une pomme. J'ai pas eu le temps de...
Mais enfin, quel manque de déontologie. C'est tout ce que vous avez à dire.
Ouais, elle est bio.
Elle est bio?
Ouais, très bonne. J'ai un frère végétarien crudivore. Il mange des fruits et des légumes crus. Elle connaît un producteur.
Quoi? Vous pouvez répéter?
Ça vous intéresse? Vous voulez que je vous donne l'adresse?
Non. Avant, un frère végétarien? Mais c'est excellent! Le fruit, voilà par quoi il nous faut commencer.
J'ai presque fini, désolé.
Mangez tant que vous voulez, monsieur Marcos. Mais bon, évitez les bruits de mastication. J'ai retrouvé l'inspiration. Chers téléspectateurs, voici enfin l'histoire incroyable de la chute et de la rédemption de l'humanité, enfin révélée à vos yeux ébahis. En trois étapes, plus une quatrième, tout s'éclairera pour vous. Nous partirons d'un jardin, passerons par un désert, puis par un temple, et finirons à un banquet. Première étape, le jardin. À l'aube des temps. Un temps impossible à situer dans l'histoire, puisque ceci se passe lors de la création du monde, et donc hors de la temporalité telle que nous la connaissons. Dieu fait Adam, c'est-à-dire l'homme. Le prototype de toute l'humanité, dont il tire la femme, Ève, la vivante, prototype de toutes les femmes à naître. Et que donne Dieu comme nourriture à cette humanité naissante? Les fruits des arbres de son jardin. De quoi se nourrissait l'homme parfait dans le jardin d'Éden? Uniquement de fruits. Les animaux, quant à eux, ne mangeaient que de l'herbe. Dieu donne donc aux humains comme nourriture des fruits, très certainement des pommes bio, bien meilleures que la vôtre, cher Marcos.
Vous croyez ?
Le problème vient après. Adam et Ève commettent une faute, c'est ce que nous appelons le péché. Nous reviendrons un autre jour sur cette question, mais notons que l'homme, à l'origine, se nourrissait de fruits. Or, une fois chassé de l'Éden, que voyons-nous ? L'homme commence à manger de la viande, et donc à tuer des animaux pour cela. Et de la mise à mort de l'animal faite par Abel, on arrivera bientôt à la mise à mort de l'homme. C'est Caïn qui tue son frère.
Puis plus tard, la mise à mort de Dieu. C'est Jésus-Christ condamné à mourir sur la croix.
Très juste, monsieur Marcos, très juste, en effet. Mais avant cela, revenons à notre question d'alimentation. Dieu aurait pu abandonner l'homme à son péché et ne plus s'en préoccuper. Mais il préférait le libérer de cet esclavage. Car, comme nous l'avons vu, le péché entraîne l'homme au mensonge et au meurtre. Dieu souhaite libérer son peuple. Alors, de Caïn et Abel, faisons un saut jusqu'à Moïse.
Deuxième étape, le désert.
Le désert que doit traverser le peuple hébreu, après sa traversée de la mer des roseaux, est une pédagogie voulue par Dieu pour que le peuple réapprenne à ne se nourrir que de Dieu lui-même. Voyez les Hébreux que Dieu a libérés de l'esclavage en leur faisant traverser la mer à pied sec. Que leur propose-t-il comme nourriture exclusive? Tout d'abord, de la manne. C'est-à-dire une étrange pluie qui tombe du ciel et dont on peut faire un pain nourrissant. Seule limite à ce don, Dieu ordonne qu'on ne fasse aucune réserve et qu'on se contente de ne prendre que le nécessaire, jour après jour, dans une totale dépendance à sa bienveillance divine.
Mais les Hébreux désobéissent.
Ils désobéissent, car ils rêvent de bonnes viandes à faire mijoter dans des plats de lentilles en Égypte. Et à cause de cela, ils récriminent contre Dieu qui finira par leur donner des cailles. Mais ça suffira toujours pas.
Ils sont un peu butés, ces Hébreux, non ?
Ils sont comme vous, Marcos. Ils ont toujours faim. Heureusement, la loi est donnée à Moïse pour remédier à cette insatisfaction permanente du peuple de Dieu. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu donnera au peuple une Torah, c'est-à-dire une loi parfaite et complète. Et cette loi n'est pas simplement donnée pour l'étude et la mise en pratique, mais avant tout pour être une nourriture réelle pour le peuple. Que dit Moïse au peuple de l'Alliance ? Elle n'est pas loin de toi cette parole, elle est dans ta bouche et dans ton cœur.
Moi j'ai fini de mâcher, docteur Samos, mais dites-moi, c'est pas un peu abstrait tout ça ?
C'est on ne peut plus concret, au contraire. Mais le processus sera long, et il faudra des siècles pour qu'il porte du fruit. Nous arrivons à notre troisième étape, le temple. Que va-t-il se passer lorsque le premier temple, celui de Salomon, sera détruit ? Cette destruction, suivie de l'exil à Babylone, va mener le peuple hébreu à une révolution spirituelle essentielle. Le prophète Jérémie annonce alors une nouvelle alliance qui transformera les cœurs.
Une alliance qui transforme les cœurs ? Comment ça ?
Eh bien, en vivant les enseignements de la Bible au quotidien. Les rabbis vont enseigner à leurs disciples les préceptes de la Torah, mais aussi leurs pratiques. Si bien que non seulement les disciples devront répéter les textes par cœur, mais ils devront aussi répéter les gestes du maître. Le maître doit donc, par son exemple, être l'image de la Torah vivante. Comprenez donc que tout le problème est là. Si je dis une chose et que j'en fais une autre, comment puis-je être crédible ? L'idéal même serait que le maître puisse communiquer à ses disciples non seulement ses paroles et ses gestes, mais également ce qu'il est lui-même, son intelligence, sa volonté, sa pensée même, bref, sa propre chair.
Vous voudriez que les disciples mangent leur maître ?
C'est ce que tout maître voudrait que son disciple fasse. Être assimilé parfaitement par le disciple. Mais c'est physiquement impossible.
À moins qu'on puisse mourir et ressusciter, comme le Christ.
Et qu'on soit parfaitement pur soi-même. Alors seulement, il est possible de transmettre son propre corps et son propre sang à manger à ses disciples. Voici notre quatrième et ultime étape. Le Christ donne sa chair et son sang. En faisant cela, le Christ donne à manger tout ce qu'il est. Pas seulement sa chair et son sang physique, mais sa vie même, c'est-à-dire son intelligence, sa volonté, sa mémoire. Voilà ce qu'il donne à ses disciples, son être même. Tout le mystère de l'Eucharistie réside là. C'est un moyen à la fois physique et spirituel pour nous faire devenir le Christ. Et ma foi, en disant cela, je ne vois pas ce que je pourrais vous dire d'autre.
Donc, du jardin d'Éden, où l'homme ne mangeait que des fruits, nous passons au désert où les Hébreux mangent de la manne, puis du désert à l'exil où les Juifs mangent les enseignements de leur rabbi, et de l'exil à Jésus-Christ où les disciples du Christ mangent leur maître dans l'Eucharistie. Merci, docteur Samos, pour cet éclairage formidable.